Je me présente, je m'appelle Jérôme Guibert, donc je suis sociologue. Et je vais vous présenter brièvement ce qui va se passer dans la journée. Et puis ensuite, je vais donner la parole à Solveig et Luc, qui sont Solveig Sarr et Luc Reben, qui sont à l'initiative du projet de recherche PIND, Punk is not dead, 40 ans de punk en France. Et donc, simplement pour vous dire que dans le cadre de ce programme, il y a des journées d'études assez régulières qui se font maintenant. Et donc, cette journée fait partie de ce programme de recherche. Et sachant que, voilà, une journée sur deux, c'est des journées maintenant délocalisées dans des villes différentes pour essayer de comprendre un peu comment l'histoire du punk en France. Voilà, et les spécificités du punk en France, et donc avec cette idée de les remettre dans leur contexte à la fois historique et temporel, quoi. Et donc aujourd'hui sur la scène punk de Montaigu, on va faire une journée en trois temps principaux, enfin trois temps plus un quatrième, plus un temps de conclusion. Mais les trois temps, ça va être les suivants. Le premier, donc, c'est ce matin. Alors ce matin, ça va plutôt être un temps où on va plutôt donner des informations. Ça va être plutôt un temps où il y a des intervenants qui vont parler, donc plus un peu à l'ancienne, enfin je veux dire un peu à la façon universitaire, plus un temps de transmission, mais dans lequel on va pouvoir quand même échanger brièvement, puisque ce temps est constitué de quatre interventions de 30 minutes chacune. 30 minutes chacune. L'intervention d'abord de Emmanuel Parent, qui est derrière, donc plutôt avec un regard anthropologique sur le punk et qui va comparer ça à l'histoire de ce qui s'est passé à Montaigu. Ensuite, il y aura l'intervention de Sandrine Hémin, qui est gestionnaire en entrepreneuriat. Et là, étant donné que la thématique de la journée, c'est la scène punk de Montaigu, l'intervention de Sandrine, ça va plutôt être sur à la fois la notion de scène et à la fois sur le côté Montaigu plutôt que sur le côté punk. Mais ça va être quelque chose qui est important, puisque quand on réfléchit sur les notions de scène locale, bah on essaye de comprendre comment les dynamiques collectives peuvent s'articuler. Et puis ensuite, on va lever un peu le pied conceptuel, mais pas du tout lever le pied au niveau des informations et des données, puisqu'on va avoir des interventions de deux personnages un peu historiques de la scène de Montaigu, puisque ça va être deux représentants de deux assos qui ont été au début de l'histoire du collectif associatif. Stéphane pour l'association AINU, et ensuite Dan pour l'association Kérosène. Donc on va rentrer un peu dans les détails. Hein. Donc voilà, ça fait quatre temps de 30 minutes chacun. L'idée, c'est qu'il y ait 20 minutes de communication et puis qu'on puisse échanger pendant une dizaine de minutes, en fait, sur ces quatre temps. Après, on fera une coupure, donc qui sera autour de 13 heures. Et on reprendra au début de l'après-midi par un deuxième temps assez intense, mais là, qui va être focalisé sur la question de la mémoire, des archives, du patrimoine, avec un échange entre ce qui a été développé à Montaigu avec le programme Alternarchive, et puis mise en regard aussi avec justement le projet de PIND qui considère que la question des archives ou du patrimoine est hyper important quand on travaille sur le punk. Mais ça, je pense que en introduction du projet, Luc et Solveig vont vous en reparler. Donc ça, c'est le premier temps de l'après-midi. C'est plus un temps sur la question de la mémoire et sur, on a tendance toujours à penser que le punk, c'est quelque chose qui disparaît aussi vite qu'il apparaît, mais en même temps, ça façonne des vies, ça transforme des parcours, ça influence des personnes. Et donc, voilà, c'est important d'essayer de remettre ça dans une perspective historique. Donc ça va être globalement, on pourrait dire, de 14h30 à 16h30, le deuxième temps. Donc là, il y aura un premier temps, ça va durer à peu près une heure, et après, on va débattre, on va avoir aussi un échange. Et on a l'honneur d'avoir Vincent Bois, qui travaille au ministère de la Culture, qui est un spécialiste aussi du patrimoine, qui va nous dire un peu aussi son point de vue là-dessus, les enjeux. Et puis, en fait, le troisième temps, là, ce sera donc après une petite pause. Et donc le troisième temps de l'après-midi, ça va être un dialogue entre diverses générations de punk. autour de Montaigu. Voilà, il y a des punks entre 20 ans et 55 ans, à peu près. Mais bon, c'est ouvert de 7 à 77 ans. Mais voilà, qui vont donner leur... un peu leur expérience, comment ils ont connu le punk, comment ils voient Montaigu. C'est pareil, ils vont exposer ça. Et puis ensuite, on va échanger ensemble, puisqu'il y a plein de gens. Il y en a plein qui sont en fait dans la salle, mais qui pourraient être aussi sur la scène et vice-versa. Donc ce sera un concert, on ferait du slam diving, mais comme c'est un colloque, on va faire des échanges plutôt en discutant. Ça. Et en fait, voilà, on terminera par un apéro-concert un groupe assez récent en fait, Jello Biafine, mais en fait qui est constitué de personnalités mythiques de la scène de Montaigu.
Ouais,
voilà, puisqu'ils ont fait partie de plein d'autres groupes auparavant. Et voilà. Donc, d'abord, Solveig et Luc vont recontextualiser en fait cette idée de chercheurs qui travaillent sur le punk et tout ça en présentant bien le projet. Eux qui ont l'expérience depuis le début, enfin, comment peut-être ils ont eu cette idée-là, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire et tout. Et puis après, on enchaîne donc sur les quatre communications, deux premières communications plutôt universitaires, deux autres plutôt liées à des acteurs, mais en fait qui, du coup, vont nous donner toutes les bases pour comprendre comment s'est construite la scène de Montaigu. Puis comme ça, vous aurez les clés pour pouvoir débattre ensuite. Des autres intervenants. Bon, je vous laisse tout de suite la parole et je remercie tout le monde d'être là.
Bravo.
Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Grâce à Jérôme, nous, avant, quand on a commencé le projet, on savait même pas qu'il y avait... On connaissait même pas Montaigu, en fait, à vrai dire. On savait même pas... Et quand on a appris qu'en plus, il y avait du punk à Montaigu, donc on était encore plus émerveillés. Voilà, donc je m'excuse, il y a pas mal de membres de l'équipe qui ont déjà entendu le même texte, donc ils vont pouvoir un jour le réciter à notre place d'ici, voilà. Mais donc ce qu'on va vous faire là pendant 20 minutes, on va vous présenter notre projet, qui est aussi un projet un peu alternatif et très coopératif. Alors c'est au cours de l'été 1976 que simultanément aux États-Unis, en Australie et dans de nombreux pays d'Europe, comme la France, une multitude de formations musicales s'autodésignent ou sont désignées, notamment dans la presse, comme punk. Et je rappelle que punk, c'est un terme argotique, un vieux terme, qui signifie voyou, vaurien, pourri, sans valeur, prostitué, enfin quelque chose qui n'est pas très très recommandable. Il y a un grand sociologue anglais qui a écrit un livre en même temps que le mouvement naissait en Angleterre qui s'appelle Dick Ettbidge. Et dans cet ouvrage, il définit le punk, donc je cite, comme un amalgame contre nature, une alliance improbable et mystérieuse de traditions hétérogènes et apparemment incompatibles. Et tous ces groupes qui apparaissent, donc qui explosent simultanément, ont en commun plusieurs choses, et notamment la volonté de faire table rase de l'histoire du rock au moyen d'une musique qui revendique la simplicité, trois accords fait un groupe, des textes qui se moquent des conventions sociales et politiques et une attitude énergique et provocatrice. On va vous montrer ça tout de suite en images. Cette cacophonie sonore se double d'une cacophonie visuelle avec un répertoire vestimentaire tout aussi éclectique que la musique et que notre sociologue définit comme un reflet déformé de toutes les principales sous-cultures d'après-guerre, donc d'après Seconde Guerre mondiale. Le punk fait donc feu d'un héritage complexe et riche et multiple dont il se nourrit et qu'il cherche à dépasser dans un refus des codes, des formes académiques de la culture et aussi des modèles établis de la contre-culture, notamment hippie. On va vous montrer ça en images.
Bon, vous avez tous reconnu Star Shooter, groupe de Lyon.
Alors nous, on est dans la France de Valéry Giscard d'Estaing, là, que vous reconnaissez, où on est... Ça, c'est un fanzine qui est lié au festival de Mont-de-Marsan. Donc, on est dans la France de Giscard. On est en plein gaullisme, on va dire, finissant. Et l'explosion punk est marquée dès l'année 76 par le festival de Mont-de-Marsan. On a hésité à faire une parodie pour Montaigu, à mettre Montaigu partout, là.
Pour aujourd'hui.
Cette explosion punk va prendre à revers la morosité ambiante qu'est celle de la France avec la crise économique, la forte hausse du chômage et clamer son refus de l'ennui. Alors, ce sont des formations en France qui choisissent de s'exprimer pour l'essentiel en français. On y reviendra, c'est quelque chose d'important, parce qu'avant, on ne chantait pas forcément le rock en français, en France. Et ce mouvement va trouver un premier achèvement en 1978. Donc, pour nous, il y a vraiment une première vague entre 76 et 78, lorsque les groupes emblématiques se sabordent et qu'une grande partie des scènes occidentales disparaît, débordée par le succès de nouveaux courants musicaux comme la New Wave et le disco. Pour autant, punk is not dead, et c'est pour ça qu'on est là. Et cette dynamique punk va trouver en France un second souffle, puis un troisième, avec une deuxième génération plus politisée et une troisième, on va dire, plus écolo-punk, qui réinventons jusqu'à aujourd'hui le son et l'être punk. Et c'est vraiment l'étude de ces histoires en recomposition, de ces paradoxes, de ces forces et de ces fragilités qui constituent le cœur de cible de notre projet.
Alors, bon, vous l'avez bien compris, c'est quand même un projet ambitieux, travailler sur 40 ans de scène punk en France. L'un des défis majeurs, pour nous, c'est de conférer à cet objet, le punk, une forme de légitimité académique, scientifique, et une visibilité qui lui sont pour l'instant contestées en France. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est face à un objet illégitime. Non content d'être considéré avec circonspection dans la société française, le punk est souvent réduit à l'image du marginal, violent, à crête, tatoué, percé, punk à chien, etc. Le punk a aussi un statut problématique dans le champ académique en France. C'est aussi un objet vulnérable. La recherche présente en effet un caractère d'urgence. D'abord celui de sauvegarder une mémoire qui est en train de s'éteindre, en raison de la vulnérabilité particulière des acteurs et du caractère aussi périssable des supports matériels. Il s'agit donc de faire surgir l'archive et de relever le défi de la préservation, voire de la patrimonialisation du punk en France à travers un minutieux travail de collecte, de valorisation, d'analyse et d'interprétation des archives de la scène punk en France. Bon, c'est aussi un objet difficile. La nature du punk est problématique, l'objet se plie mal à l'étude académique, refuse d'être défini, rejette toute méthode et renie l'idée même d'histoire et d'expertise. Alors, le projet entend mobiliser la notion de scène comme prisme d'analyse. C'est un outil qui permet de repenser de manière dynamique les pratiques musicales. La musique est vraiment au cœur du projet pour nous. Repenser de manière dynamique les pratiques musicales en rapport avec un territoire, acteurs, réseaux, lieux, labels, etc. Et c'est un prisme qui permet également de replacer, comme je viens de le dire, la musique véritablement au cœur du mouvement punk en France. Alors, trois grandes questions de recherche nous ont permis de bâtir ce projet. Enfin, il est construit autour de trois grandes questions de recherche. D'abord, le paradoxe du temps. La première hypothèse concerne le temps. Et en fait, elle interroge la persistance d'un mouvement qui revendiquait, dès sa naissance, l'absence de tout futur. Donc, c'est quand même une question intéressante de comprendre pourquoi, ce fameux no future du début, 40 ans plus tard, on est toujours avec ce mouvement punk. Alors, ce questionnement autour du paradoxe temporel du punk est redoublé par le fait que les discours issus de cette scène ne s'accordent ni sur la chronologie des événements, ni sur la généalogie et la succession légitime des épisodes, des différents segments du punk qui participent à réinventer ce mouvement. Il s'agit donc de comprendre comment une culture musicale peut s'inscrire dans le temps et d'analyser différents récits, différentes temporalités qui structurent et qui délimitent ce fait musical punk. Nous postulons que le punk, 40 ans d'histoire punk, ça renvoie en fait à différents régimes d'historicité. Deuxième question, la question de l'espace. Deuxième hypothèse de recherche. Alors, l'espace, qu'il soit géographique, culturel ou social, on utilise beaucoup la notion de transfert culturel qui implique un mouvement entre deux espaces culturels et se propose d'en analyser les supports et les logiques. Bon, c'est quelque chose de fondamental pour nous parce qu'on a envie de savoir si au fond le punk en France c'est quelque chose d'original ou si ça n'est, comme on l'a longtemps pensé, qu'une simple déclinaison d'un modèle importé d'Angleterre ou des États-Unis. Voilà. Et à cet égard, ce que soulignait Solveig est important, le clivage entre l'utilisation de la langue française ou anglaise, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Bon, la question de l'espace aussi, c'est aussi la question des formes d'hybridation avec, par exemple, les cultures régionales. Hein, comment le punk s'implante, se développe dans certaines aires géoculturelles, avec, en prenant en compte, en se nourrissant aussi des cultures locales. Troisième hypothèse de recherche, grande question de recherche, ce qu'on appelait la cohérence paradigmatique du punk. En fait, cette troisième et dernière hypothèse, c'est regarder un petit peu comment d'un côté se pose le paradoxe d'un objet, le punk, ça a été décrit, plutôt kaléidoscopique, anarchique dans ses productions, ses postures, mais ponctuellement défini, voire institutionnalisé par des codes, des formes de cohésion musicale, esthétique, artistique. Et donc on a envie d'éclairer un petit peu cette espèce de cohérence du punk. D'autre part, on souhaite montrer de quelle manière cette cohérence surgit, s'organise dans le temps et se positionne par rapport à l'establishment, ce qui est établi, par rapport aux formes hégémoniques de la culture. Et on cherche à appréhender les poids respectifs de l'innovation, des formes de résistance entre d'un côté ce qui est la base, le côté underground, et d'autre côté les formes de récupération éventuelle, de commercialisation, d'institutionnalisation. C'est quand même quelque chose d'important parce que depuis le début, ça a posé problème au punk. Hein, c'est-à-dire comment on reste en marge en fait, et comment on vit le succès. Comment on négocie quelque chose qui est finalement pas si simple que ça, hein, entre underground et mainstream, pour faire vite. Alors, pour travailler sur ces trois grandes hypothèses, 8 chantiers de recherche.
Alors, des chantiers, on est obligé de diviser la science en chantiers, mais sachant qu'ils sont tous très profondément interdépendants les uns des autres. Donc, le premier chantier, c'est ce qu'on a appelé, de manière un peu savante, historicité et généalogie. En fait, c'est quoi ? Mais finalement, c'est assez simple. C'est de faire émerger, en France, il y a à peu près 3 grandes périodes. La première, j'ai mis des groupes de 3 générations. La première, c'est la période originelle, 76, 78, 79, avant la mort proclamée du punk, on va dire. Une période où le punk n'est pas politiquement... Pas au sens de la politique politicienne, il est engagé, mais plutôt musicalement, plutôt contre la musique progressive, les groupes qui sont allés au conservatoire, qui font des morceaux de 20 minutes, une musique abrupte, énergique, vous avez vu tout à l'heure sans l'entendre Star Shooter. La deuxième génération, alors là on est plutôt dans un punk beaucoup plus dur, anarcho-punk, beaucoup plus engagé politiquement, avec des textes extrêmement revendicatifs, hein, la jeunesse emmerde le Front National. Et la troisième génération, pas forcément pour les Saintes Majestés, mais plutôt quelque chose d'hybridé avec d'autres sonorités, notamment le métal. Je pense à des groupes comme Tagada Jones, par exemple. Et des thèmes nouveaux qui apparaissent assez contradictoires avec le punk des origines.
Comme l'écologie.
On pense mal que les punks puissent défendre l'écologie.
Ceci dit, même les premiers groupes, Strychnine par exemple, qui jouent toujours aujourd'hui dans ces textes, et ce côté écologique qui est arrivé. On voit bien la transformation...
Alors le deuxième chantier, c'est celui du vieillissement et de la mémoire. Parce qu'en effet, quand on était punk en 77, on peut l'être encore aujourd'hui. Et donc on a plus 20 ans, c'est comme le dit l'affiche du festival. On en a plutôt 55 si on n'est pas mort. Et je dis ça sans aucun humour, hein, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de la première génération qui, à cause d'un mode de vie difficile, des substances, etc., s'éteignent. Donc, comment appréhender le vieillissement ? Comment aussi appréhender la mémoire, le discours sur qui on était en 77 ? Il y a des gens qui vont nous dire, on n'a jamais été punk, alors qu'on sait très bien que la presse les qualifiait comme punk et qu'eux-mêmes se revendiquaient punk. Donc, toute la difficulté autour des discours de la mémoire et de cette question du vieillissement. Troisième chantier, c'est celui de la médiation et de la médiatisation du punk, notamment par la presse. J'aurais pu mettre l'autre volet, les fanzines. En gros, comment cette histoire est racontée. La presse est assez intéressant. Comment en 78, le punk est porté au nu, tout devient punk, et puis après, aussitôt, on s'en débarrasse et on le remplace par la New Wave. Donc, voir comment la presse porte cette histoire.
Et définit le punk aussi, c'est important. Et catégorise, et fait naître le punk comme une forme de catégorie.
Alors, le quatrième chantier, qui s'appelle homologie musicale, esthétique et artistique. Là, en fait, il s'agit de voir pour nous les différentes correspondances entre, là j'ai mis une pochette et un groupe, comment on peut, par exemple, on retrouve ces 3 générations à travers les visuels des pochettes. Il y a clairement 3 esthétiques différentes en fonction des générations. Donc c'est ça qu'on a appelé homologie esthétique musicale, c'est voir les correspondances entre, est-ce qu'un son correspond à une esthétique, par exemple. Voilà. Le cinquième chantier, bon, c'est celui de la violence. On y a consacré une journée d'études en mai dernier, donc j'y reviens pas. Vous imaginez tous ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une vraie violence ou est-ce qu'elle est, ou est-ce que c'est un code ou est-ce qu'en fait c'est pour faire peur aux autres et qu'en fait c'est très bien codifié. Le sixième chantier, c'est celui sur le corps. Qu'est-ce que le punk implique en termes de, d'implication corporelle. Le septième chantier, donc lui, il s'attache au genre du punk. Est-ce que c'est un espace où peut-être les femmes, soi-disant, parce que c'est un mouvement plus ouvert, ont un meilleur rôle ou pas? On se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément une scène si ouverte que ça aux femmes, aux homos, etc. Et le huitième chantier, qui lui sera le dernier, un chantier de synthèse, consistera à cartographier finement une là où on sera allé pour arriver à voir ben, comment évoluent les gens, où est-ce qu'ils vont, les trajectoires, les réseaux. Donc ça, c'est vraiment un chantier à long terme, à l'avenir. Alors, s'agissant de nos partenaires, donc, voilà, on ne peut pas dire qu'on ne leur rend pas hommage. Donc, on est financé pour 4 ans. Il faut les mettre partout, tout ça. Donc là, voilà, ils sont tout seuls. Par l'Agence nationale de la recherche, qui est en France le seul organisme, en fait, qui finance la recherche, parce que dans nos institutions, on n'a plus de financement en propre pour travailler. Il faut faire des dossiers, voilà. Et il y a très peu de projets qui sont financés. Donc on les remercie quand même beaucoup de nous avoir, d'avoir eu l'ouverture d'esprit, parce qu'on n'en revenait pas, hein, quand on a été financé, sur cet objet qui est quand même assez mal vu à l'université. Donc on bénéficie pendant 4 ans d'un peu d'argent pour travailler. Ça, c'est aussi tous nos partenaires, donc le ministère de la Culture via Vincent et la mission des archives, la Philharmonie de Paris qui nous ouvre la porte au moins une fois par an pour qu'on puisse faire des événements destinés à un public qui n'y connaît absolument rien en punk. La fanzinothèque de Poitiers, Marie devait venir exposer plein de fanzines, mais elle s'est cassée le poignet, mais elle avait prévu de venir. Ils viennent à toutes nos journées, ils essaient de montrer tout ce qu'il y avait comme, tout ce qu'il y a comme fanzine concernant le punk. L'École nationale des chartes pour le volet patrimonial. Le Centre Barbara Fleury qui nous accueille à Paris pour toutes nos journées d'études thématiques. On va y revenir là dans 2 minutes. Et le Punk Scholar Network qui est un réseau en fait plutôt anglais qui essaie de faire un réseau européen de chercheurs comme nous et d'activistes qui travaillent sur le punk. Voilà, donc là vous pouvez jouer au jeu de qui est qui. Donc elle n'est pas complète, elle a un peu grossi encore cette année. Donc notre équipe, c'est une équipe très interdisciplinaire. Donc il y a à la fois des chercheurs qui viennent de beaucoup de disciplines, il y a des historiens, des sociologues, des musicologues, des anthropologues, des historiens d'art, des littéraires, un géographe qui s'est perdu au milieu. On essaie en fait tous. Alors l'intérêt, c'est qu'on vient tous de disciplines différentes, mais aussi de lieux différents en France, ce qui nous permet de faire des journées ben, comme celle de Jérôme. On en a fait à Caen, on en fait là où il y a les chercheurs qui travaillent en fait. Ça nous permet d'avoir accès à des réseaux. Voilà. Donc on cherche des chercheurs qui travailleraient dans le Pays Basque, dans le Sud-Est, voire à La Réunion, parce que pour l'instant, on a des zones qui ne sont pas encore couvertes.
En Corse.
En Corse. Je continue alors. C'était pour vous montrer le genre de public. Là, c'était justement à la Philharmonie pendant un colloque. Mais il n'y a pas que ça comme public, il y a aussi ça. Donc quand Jérôme disait qu'on ne peut pas rentrer sur scène en slamant, en fait, si, tout à fait, on peut rentrer sur scène.
Ça, c'est à Caen.
Ça, c'est une journée d'études à Caen.
Journée d'études à Caen.
Voilà, la médiathèque est très fâchée contre nous maintenant à Caen. Non, c'est pas vrai.
Alors, à côté des événements scientifiques, on essaie aussi d'articuler ça. Ben, ça va être le cas ici ce soir avec un côté concret, artistique, musical, des événements culturels. Enfin, voilà. On tient beaucoup à cette articulation entre la recherche et puis le terrain, la musique, ce qui se fait concrètement, les pratiques, les acteurs. Voilà, donc quelques exemples.
Alors ça, c'est, voilà. Donc ça, c'est les journées d'études. On vous les a mises en photo. Aujourd'hui, c'est la 13e. Ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé.
Janvier 2015.
Donc vous voyez, il y en a des thématiques, genre par exemple celle en la rouge là-haut, c'est sur la violence. Les thématiques, on les fait à Paris, donc il y a eu la violence, le genre, on explore des grands thèmes. Et il y a des journées locales, depuis qu'on a un peu plus d'argent, qu'on peut se déplacer. Pour l'instant, on a fait Toulouse, on a fait Caen, on a fait Montaigu, et l'année prochaine, on va faire entre autres Rennes, le Val d'Arjol chez Narcisse, Lyon, enfin voilà, donc on essaie.
On a en projet aussi, sans doute, d'en faire une à Londres, parce qu'on considère que c'est important d'aller voir aussi comment, de l'extérieur, cette scène punk française a été perçue. C'est-à-dire, quel a été le regard des Anglais sur le punk français, et quelle était la porosité aussi entre la scène française et la scène anglaise, notamment. Hein, voilà. Voilà.
Donc il y en a à peu près une toutes les 6 semaines, on va dire, de rencontres comme aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour vous montrer, pour donner une idée du travail.
Alors, on va parler de Sue.
On va parler de Sue. Donc Sue, vous l'avez vu ce matin, c'est notre photographe du projet. Elle est là toutes les journées, elle fait des...
On peut lever la main.
Voilà, voilà, voilà. On peut... Donc Sue, elle est très active, elle photographie beaucoup la scène parisienne contemporaine, mais pas que, elle se déplace maintenant. Et là, c'était une expo qu'on a fait dans le cadre du colloque, justement, avec des photos sur le qu'est-ce que c'est le punk au XXIe siècle. Ça, c'était l'expo qu'avait fait Samuel Etienne, qui n'est pas là, mais de fanzine, quand on est allé à Caen. Il avait fait un mur de fanzine.
Très beau travail.
Alors ça, c'est tout ce qu'on fait dans notre projet. D'ailleurs, il faudra que tu nous donnes tous les liens de toute la presse qu'il y a eu, parce qu'on a vu qu'il y en avait beaucoup. Donc, des émissions de radio, de la presse écrite. Ouest France, ils nous aiment beaucoup. Ce n'est pas la première fois qu'on était chez eux. Philippe Lyotard, ici présent aussi, avait fait un très beau fanzine.
Voilà, un fanzine,
avait fait un très beau fanzine,
l'inqualifiable.
L'inqualifiable spécial punk, qui était donc, il y avait plein de choses sur le punk qu'on pouvait, enfin, faudrait peut-être le réimprimer. Et puis, bon, ben ça, parce qu'on est quand même des chercheurs, on est tenu, on fait des articles scientifiques dans des revues que personne ne lit, mais dont on est quand même très fiers. Voilà, et puis j'ai vu qu'il était là. On a sorti en novembre dernier un numéro de la revue Volume, dont Jérôme est éditeur en chef, qui était consacré justement à la scène punk en France et qui ouvrait des pistes. On ne pouvait pas du tout tout couvrir, puis on était en début de projet, donc c'est déjà un petit aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Alors là, cette photo, on y tient beaucoup. On remercie donc, tant vu qu'on... Monique et Dominique, là, qui sont ici présents aussi, ouais. Et Arnaud,
qui est là, des Salles Majestés.
Voilà, parce qu'en fait, ce qu'on essaie de susciter, et ici vous connaissez bien l'histoire, on essaie de susciter un gros travail de collecte d'archives du punk, que ça soit physique ou numérique, mais là vous voyez le volet physique. Donc en fait, ici, là, la photo de gauche, on est au ministère de la Culture, chez Vincent. Et en fait, ben, Arnaud nous a confié ces archives, on les a ouvertes, on les a classées, on les a mises dans des cartons neutres, et en espérant que c'était les deux premiers cartons j'espère qu'on va en avoir 500 et qu'on va arriver un jour à trouver une institution qui nous les conserve sérieusement. Et là, les archives que vous voyez dans le camion, là, avec Monique et Dominique, c'est celle d'une radio libre toulousaine, donc il y a 35 ans de radio, là-dedans, il y avait 30 cartons, et c'est pareil, c'est trié, c'est en cours de tri, de classement, etc.
Alors, je voulais dire juste un truc. Alors, on voit sur la photo Pierre qui est là. Pierre Rabou, c'est notre post-doctorant. C'est important parce que ce projet, il a aussi pour vocation d'intégrer des jeunes chercheurs. On a des masters qui travaillent avec nous, donc un post-doctorant. Et on y tient beaucoup parce que pour eux, c'est aussi l'occasion d'une formation à la recherche par la recherche. Voilà, donc...
Alors ça, vous pouvez aller voir. Il manque encore 3 petits trucs dessus, mais on a une adresse. On a un site internet. Bon, l'adresse, je dois avouer que je vais essayer d'en faire un punk.org parce que c'est... Alors, on est obligé d'avoir une adresse officielle de l'université. C'est trop compliqué, mais pour l'instant, elle fonctionne à cette adresse-là. On va essayer de rediriger vers un punk.org ou un punk.fr. Donc, vous pouvez aller voir. Il y a notamment toutes les journées d'études depuis la quatrième qui sont captées intervenant par intervenant grâce à Dominique qui fait le son de manière très fine. Donc vous pouvez tout réécouter, il y en a pas mal, il y a des heures et des heures d'écoute si ça vous intéresse. Et là, on est en train de construire une base de données. Donc, pour l'instant, elle ne fonctionne pas encore, elle va démarrer en septembre, qui est beaucoup construite autour des groupes. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses à renseigner, le nom du groupe, le genre du groupe, enfin plein de choses, l'année de création, les membres, etc. Et ce qu'on a voulu, c'est en faire une base collaborative, c'est-à-dire que tout le monde ici, vous, pas que nous, vous puissiez rentrer les données de manière assez simple dedans, afin de, qu'on puisse savoir où est-ce qu'en est le punk en France depuis 40 ans. Voilà. Donc ça pose beaucoup de problèmes, la collaboration, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, donner l'accès aux gens, ça veut aussi dire que s'il y a quelqu'un de malfaisant, on peut tout voir disparaître, donc ça nous pose beaucoup de problèmes de réflexion pour savoir comment gérer les problèmes de sécurité liés à la collaboration. Mais c'était très important pour nous d'en faire une base de données ouverte à tout le monde et pas simplement fermée aux chercheurs. Voilà, donc pour finir, on a pris le temps, mais comme on était déjà en retard, on assume. Alors, PIN, c'est quoi ?
l'acronyme de Punk is not dead. Donc,
punk pas mort.
C'est aussi le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
Un retour vers nos futurs qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Caen, Rouen, Paris, Toulouse, Fumel, Bordeaux, Rennes, Montaigu, Lyon, Saint-Étienne.
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre.
Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatous et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futures.
Ça parle de 77 et des années 80, 90, 2000, 2010.
Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule parfois, mais toujours pour comprendre.
Bref, un truc essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs et des musiciens.
Une équipe terrible et tellement motivée.
Do it yourself, just take a look. Merci.